En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
Tom Malki est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire, et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin, tu puisses t'en sortir.
En sortir, un podcast produit par Ground Control.
Hello, today I dedicate this podcast to you, the foreign student who is listening to us and who also faces precariousness. Sie sind nach Frankreich gekommen, zu studieren, aber auch ein Land, eine Stadt, eine Kultur zu entdecken, von der sie geträumt haben. Pero este año quizá te hayas encontrado solo, en casa, aislado. Forse hai anche avuto problemi con il cibo, l'alloggio, l'assistenza sanitaria. C'est donc en français que nous allons prendre le temps dans cet épisode de t'écouter et de te donner des solutions pour t'aider à t'en sortir. En sortir, épisode 8, et pour ceux qui ne l'avaient pas saisi en introduction, on aborde aujourd'hui la précarité de nos étudiants étrangers qui ont été particulièrement touchés par cette crise sanitaire. Pour en parler avec moi, il y a Lydia, étudiante en DU didactique du français langue étrangère. Bonjour Lydia.
Bonjour.
Tu es venue ici pour témoigner de la précarité des étudiants étrangers. Et est-ce que tu peux nous dire de quel pays toi tu es originaire ?
Alors moi je viens d'Algérie. Ça fait 3 ans que je suis en France. Et voilà.
Merci. On va y revenir évidemment. Avec nous pour en parler, il y a Adrien, président de Parismus. Bienvenue.
Salut, enchanté.
Alors en deux mots, Adrien, qu'est-ce que Parismus ?
Alors Parismus, c'est une association étudiante internationale qui est rattachée à Sorbonne Université, donc Paris 4 et Paris 6 qui ont fusionné. Donc on est une association qui s'occupe d'accueillir les étudiants étrangers dans notre université, de proposer des événements festifs, culturels pour eux, un petit peu de solidarité aussi, et promouvoir la mobilité aussi des gens qui veulent partir étudier à l'étranger.
D'accord, et dernière invitée de ce podcast, c'est Angèle Delpech, vice-présidente en charge de la défense des droits à la FAGE, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Alors, nous avons déjà eu le privilège de recevoir la FAGE pour le 4e épisode, mais puisqu'un rappel ne fait jamais de mal, la FAGE, en quelques mots, c'est quoi ?
Alors, la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, qui est la première organisation représentative étudiante, qui du coup, à la fois, fait des projets pour accompagner les étudiants au quotidien et tient un plaidoyer pour faire bouger les choses.
D'accord, et bien merci à tous les trois d'être venus témoigner dans ce podcast. Alors nous aujourd'hui on est ici pour essayer de comprendre ce que toi, étudiant ou étudiante d'origine étrangère, tu traverses en ce moment. Comment vis-tu alors que tu es isolé de ton pays et de tes proches ? On écoute tout de suite les réponses que tu m'as apportées.
Non, on n'est pas rentré dans notre pays, mais on ne voulait pas.
À cause de la situation Covid, les transports, les aéroports, tout ça, c'est très difficile de bouger. En plus, partir à la limite, tu peux faire ça, mais pour revenir en France, ce serait compliqué. Du coup, non, depuis que je suis arrivé en France, je n'ai pas encore vu ma famille.
Non, nous sommes isolés, vraiment, depuis que nous sommes ici.
Il y a un moment que c'est difficile parce que je suis arrivé ici seul.
Ouais.
Et ma famille me manque beaucoup, mais bon. C'est important aussi de faire nouvelles des amis, de connaître beaucoup de personnes de différentes cultures.
Non, c'est galère, non, je n'ai pas pu retourner, non, c'est impossible. Là, pour le moment, c'est impossible. Déjà, avec nos autorités, c'est la galère.
Ouais.
Et déjà, je ne parle pas du billet ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, si je prendrais que d'y retourner, je ne sais pas si je pourrais revenir. Certes, je pourrais revenir, mais est-ce que je pourrais revenir quand je veux ? Là, les tests PCR, les blocages à l'aéroport, ouais. Machin et tout le tralala, mais c'est infernal. Et du coup, là, pour le moment, sincèrement, je ne vais pas m'aventurer.
C'est un peu triste, fatigant, stressant aussi, parce qu'il me manque beaucoup. Ouais. J'ai toute ma famille, les lovers en fait, mes parents, et mes sœurs, mes frères et tout. Donc, j'espère que c'est bientôt.
Non, je suis bloquée, c'est très loin pour y aller. Je suis assez triste parce qu'en plus, la communication, des fois, là-bas n'est pas la meilleure. Et du coup, quand j'essaie de parler avec ma famille, le wifi se coupe et c'est embêtant.
Depuis le début, oui, on a tout de suite vu qu'il y avait une grande détresse. Bah, ils sont beaucoup isolés. Ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils arrivent, tout est fermé. Pour rencontrer du monde, c'est assez dur. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de faire un maximum des événements, des, de créer du lien en fait pour qu'ils puissent se rencontrer, rencontrer aussi la population locale et tout.
Difficile aujourd'hui de ne plus voir ses proches, de ne pas connaître de gens sur place, ni même le pays où on vit. Résultat, pour certains, c'est l'isolement, pour d'autres, la déception. On leur avait promis Paris et ils se retrouvent dans une version bas de gamme de Resident Evil. Si vous n'avez pas la référence, vous ne ratez rien, rassurez-vous. Première question, elle est pour toi, Lydia. Est-ce que tu partages ce sentiment de déception dû à cette année, donc à ces plusieurs années dans ton cas, de crise sanitaire ?
Je pense, comme tous les étudiants, c'est vraiment une période très très difficile moralement. Et être loin de sa famille, de ne pas les avoir vus depuis au moins 2 ans, de ne pas ressentir la chaleur humaine. Enfin, on peut les voir par téléphone, mais ce sera jamais pareil. C'est pas comme s'ils étaient devant toi et tu leur fais un câlin, tu leur fais des bisous et tout. Enfin, c'est pas la même chose.
Comment tu le vis, toi, cet isolement ?
Personnellement, je l'ai vécu très très mal, surtout au début. Parce que je me retrouvais toute seule dans un 12 mètres carrés. J'avais personne avec moi. J'avais ma famille au téléphone ou comme ça, mais la plupart du temps, j'étais toute seule. Donc, dans un 12 mètres carrés, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire du sport si on veut. On ne peut pas bouger comme on veut. Donc, ça a laissé un peu des séquelles psychologiques.
Et est-ce que tu avais déjà, puisque ça fait 3 ans que tu es à Paris, tu l'as dit, tu avais déjà des connaissances sur place quand même ?
Oui, je suis de nature très très sociable. Donc me retrouver dans une chambre toute seule, ça m'a chamboulé. Donc oui, j'ai connu des étudiants de ma fac à la Sorbonne 4, parce que j'ai étudié à la Sorbonne 4 d'abord et ensuite j'ai changé de Sorbonne. Je suis allée à la Sorbonne 3 maintenant. Même si je me suis fait des connaissances, j'ai pas eu le temps de bien profiter avec eux, de vivre, comment dire.
Alors, Adrien, est-ce que chez Parismus, c'est ce que vous avez ressenti, ce besoin de renouer du lien social avec les étudiants étrangers ? Est-ce que eux sont plus isolés que les autres ?
Oui, et surtout ceux qui sont arrivés cette année et qui n'ont connu que ça en fait. Ils n'avaient pas de cours, ils pouvaient rencontrer personne, il n'y avait pas de soirée, pas de sortie, pas de possibilité de faire des événements en dehors de la fac, donc ils étaient juste tout seuls dans leur chambre, quoi, et sans connaître absolument personne à Paris, et c'était terrible parce que on a organisé des balades par exemple où des étudiants sont venus me voir et m'ont dit mais tu es la première personne à qui je parle à part ma concierge ou la caissière, quoi. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des étudiants internationaux qui sont complètement isolés, quoi.
Comment on crée du lien avec ces étudiants dans une situation sanitaire compliquée ? Quels événements vous avez mis en place ? Tu parlais de balades.
Ouais, donc on a quand même un groupe de discussion qui a été assez actif, un groupe WhatsApp en début d'année. Oui, sinon on faisait des petites balades où on faisait rencontrer les gens, et les gens n'y allaient pas vraiment pour le sujet de la balade en fait. Ils n'allaient pas pour visiter, ils allaient juste pour rencontrer des gens, s'échanger des Insta, discuter. Enfin, c'était ça qui les motivait à venir en fait. Et d'habitude, les balades, on les remplissait qu'à moitié quand on proposait des balades en temps normal. Et là, à chaque fois, tout partait en 2 jours, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui voulait venir.
Alors, Angèle, comment est-ce que la FAGE fait pour défendre ces étudiants étrangers contre l'isolement ?
Alors, pour les défendre contre l'isolement, c'est plus nos fédérations de territoire, en fait, qui s'en occupent, parce que ce sont elles qui sont au plus près des étudiants, tout simplement, donc en organisant des actions et en s'impliquant aussi dans les buddy systems qui sont mis en place parfois dans les universités, qui sont des systèmes de parrainage d'étudiants, ce qui permet de créer une forme de lien privilégié et de mettre en place justement des actions comme des balades, des visites historiques, etc.
Oui, alors les buddy systems, d'ailleurs, c'est pas qu'aux universités, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place dans les écoles, dans les prépas, c'est assez commun, non ?
Alors, c'est assez commun, mais ça dépend quand même beaucoup des écoles. Certaines ne passent pas encore le pas, mais nous, on pousse pour que ça soit le cas.
Alors justement, la précarité des étudiants étrangers, ce n'est pas uniquement l'isolement. Il y a d'autres formes de précarité qui vont toucher ces étudiants-là plus durement que les étudiants français. Quelles autres formes de précarité ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors du coup, on a la précarité financière, bien sûr, et à côté de ça, tout ce qui est alimentaire et numérique, mais qui sont liés à la précarité financière, pour différentes raisons, et je me permets de détailler un peu, c'est que la période a été plus compliquée, notamment pour les étudiants extra-communautaires, sur le renouvellement des titres de séjour. Les procédures étaient plus longues, et du coup, quand on n'a plus de titre de séjour, et ben, on ne peut plus travailler, on ne peut plus percevoir d'APL, ce qui a en fait été un cercle complètement vicieux et qui a fait que des étudiants ont eu beaucoup de mal à s'en sortir.
Alors j'ai personnellement, et je pense que c'est le cas de certaines personnes autour de cette table, connu des blocus étudiants dans les universités en 2018 contre, je rappelle les raisons, hein, la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers hors Europe.
Alors, au-delà du débat politique que représentait cette réforme assez controversée, est-ce qu'on peut dire que la précarité des étudiants étrangers, elle est largement antérieure à la crise sanitaire, Angèle ?
Oui, elle est largement antérieure. Leur demander, du coup, ces frais, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Et du coup, la FAGE et ses élus et ses fédérations ont fait en sorte que dans les différents établissements d'enseignement supérieur, ce soit quelque chose qui ne passe pas. Mais effectivement, c'est antérieur. On s'en rend compte lors de la venue en France. Quand il faut trouver un logement, parce que en fait, le prix des loyers augmente, c'est quelque chose qui est compliqué. Et puis, il faut pouvoir, en fait, pour renouveler son titre de séjour, justifier de minimum 616 euros par mois en termes de revenus. Et en fait, c'est une somme que des étudiants n'ont pas, parce que ce n'est pas facile d'obtenir 616 euros par mois.
Alors, Lydia, toi qui es étudiante en France depuis 3 ans, est-ce que tu es d'accord avec les précarités dont vient de parler Angèle ? Est-ce que ça te touchait déjà avant ?
Tout à fait. C'était très très dur pour moi de refaire mon titre de séjour, même au tout début. Parce que je devais justifier, comme a dit Angèle, plus de 600 euros de revenus. Je travaillais comme babysitter et je touchais presque 400 euros, juste ça. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait ma sœur et c'est elle qui payait le loyer. Je me suffisais pas même avec 400 euros.
C'est difficile de trouver un emploi quand on est étudiant étranger ? Peut-être plus difficile que quand on est français ?
Je pense que oui. Parce que quand on vient ici, déjà, c'est tout un autre monde. Donc on doit s'adapter d'abord. Et c'est très très difficile de s'adapter quand il y a une crise sanitaire, déjà. Je pense que oui, il y a aussi la barrière de la langue.
Est-ce que tu étais déjà bilingue français quand tu es venue en France ou tu as appris au fil des années ?
Alors, moi, c'est particulier parce que j'ai grandi dans un environnement très linguistique. Je suis quadrilingue.
D'accord.
Donc, je parle 4 langues.
On est tous impressionnés autour de la table.
Merci. Donc, le côté langue n'a pas été un problème.
Tu n'as pas ressenti cette barrière, mais tu as ressenti la barrière culturelle, sociale peut-être ?
Tout à fait, tout à fait. Enfin, il y a des petites différences, on va dire, mais ça gênait pas trop. Enfin, pour ma part en tout cas.
Tu abordes justement le problème de la barrière culturelle et je vais te poser la question. En dehors des précarités, comment tu le vis d'être étudiante étrangère en France ?
Franchement, pour ma part, j'ai pas eu vraiment de problème avec ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très très sociable. C'est vrai que des fois, je me dis, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'on voit, j'ai pas l'habitude de voir ça en Algérie. Donc oui, ça peut créer un petit peu des petits questionnements. Mais en gros, voilà, c'est juste des petits... pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Que ça se passe comme ça.
Adrien, est-ce que justement vous en avez des questions parfois de pourquoi, comment vous faites pour briser peut-être ces barrières culturelles, sociales ?
C'est pas toujours facile parce que même nous, des fois, les choses qui nous paraissent évidentes et qui ne paraissent pas pour les étudiants étrangers. C'est très marrant parce qu'on fait aussi un podcast, nous, et on a des étudiants qui nous racontent des anecdotes et auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est des choses qui surprennent les gens et qui, nous paraissent complètement normales. Par exemple, des petits trucs du quotidien. Par exemple, en France, les toilettes et les salles de bain sont séparées, alors que dans la plupart des pays, pas du tout. Il y a des étudiants qui disent « Mais pourquoi ?» Ils ne comprennent pas. Ou vraiment des choses comme ça. Des fois, souvent, ils ont du mal avec l'attitude des profs qui est parfois différente d'un pays à l'autre. Des fois, par exemple, je sais que dans des pays comme l'Espagne, les profs sont très proches des élèves, alors qu'en France, pas du tout, ou rarement, quoi. Donc, ouais, c'est ce genre de choses qui arrivent, quoi.
Et alors, à ce moment-là, comment vous faites ? Vous prenez le temps d'expliquer ? Vous mettez des...
Oui, c'est ça. Enfin, après, les choses sont comme elles sont. On peut pas trop les changer, mais on explique aux étudiants comment ça marche. On les rassure. On fait aussi un petit guide qu'on leur distribue au début de l'année en leur disant, voilà, ça se passe comme ça, comme ça.
Vous avez eu des retours de la part des étudiants étrangers sur vos actions, sur vos événements ?
Ouais. Alors, on a fait aussi cette année... On a fait presque que des balades en fait, on n'a pas fait d'événements festifs, on a vraiment fait que des balades, des petits trucs culturels. Mais...
Comme le reste de la France ?
Oui, on avait aussi prévu des voyages qui étaient vraiment tout à fait calés, mais genre à une semaine près ça tombait au confinement à chaque fois, donc c'est tombé à l'eau. Et oui, non, sinon on a eu d'assez bons retours, les étudiants étaient contents de pouvoir faire d'autres choses quoi en fait, même si on ne pouvait pas proposer des choses de dingue quoi, ça les suffisait, ils étaient contents parce qu'ils rencontraient des gens et... On passe un moment ensemble. Quoi.
Autre question, parce que pour des associations comme Parismus, ça a été une période assez compliquée cette année pour mener des projets. Comment est-ce qu'on arrive à motiver des bénévoles ?
Les bénévoles aussi étaient isolés, donc ils avaient envie de rencontrer des gens et de faire des choses, quoi, et de sortir un peu aussi de faire les cours en visio. Enfin, ça les motivait de faire de l'associatif parce qu'on était obligé de faire des actions, de se rencontrer, d'échanger avec les gens et... Ça permet un peu de sortir de tout ça aussi des fois. Puis on a essayé de rebondir quand même sur ce qui s'est passé cette année. On a fait des collectes, des distributions de colis d'hygiène pour les étudiants précaires. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que tous les étudiants qui s'inscrivaient, c'était que des étudiants internationaux en fait. Alors que ça s'adressait vraiment à tout le monde et on s'est dit, mais waouh, en fait, c'est presque que des étudiants étrangers quoi.
Il y a une vraie détresse.
Ah oui, vraiment. Enfin, il y a vraiment des étudiants étrangers de tous les pays, hein. Beaucoup d'Européens qui viennent aussi. Enfin, qui viennent de Grande-Bretagne et tout, par exemple, on s'est dit, bah, ils sont pas forcément en grande détresse, on se rend compte que bah, parfois si, quoi.
Angèle, même question que pour Adrien, comment est-ce qu'à la FAGE, vous avez réussi à motiver les troupes, si je puis dire, pour mener vos projets pendant cette période ?
Alors nous, les troupes, on les motivait déjà un peu hors de la crise sanitaire, parce qu'on a notamment un projet qui s'appelle le projet Agorae, donc qui sont des épiceries sociales et solidaires, qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années déjà et qui continue de se développer. Donc en fait, il y a eu un maintien de certaines agorae et certaines se sont transformées en distribution alimentaire. Et dans des endroits où on n'a pas forcément d'agorae, il y a eu des distributions et avec beaucoup d'engouement, de manière générale, de la part de notre réseau qui est composé de différentes associations, majoritairement de filières, mais aussi d'associations thématiques. Donc voilà, le motif de la solidarité a beaucoup joué et de manière générale, que ça soit pendant la crise sanitaire ou hors crise sanitaire, on retrouve aussi beaucoup d'étudiants internationaux dans ces épiceries.
Alors Adrien soulevait cette forme de prise de conscience du fait que les étudiants étrangers sont extrêmement en détresse. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, on l'espère à la fin de la crise sanitaire, à l'échelle étudiantine comme, j'avais marqué gouvernementale, mais j'ai envie de dire sociétale, il y a une prise de conscience de la situation dans laquelle se trouvent les étudiants étrangers aujourd'hui?
Je pense qu'il y a une prise de conscience, un début, mais en fait, ce sont pas les étudiants qui sont les plus valorisés, en tout cas, enfin, dans cette prise de conscience. On prend conscience que les étudiants vont mal, mais un focus n'est pas fait non plus sur les étudiants internationaux, alors que pourtant, ils sont vraiment dans une situation qui est plus que complexe, je pense qu'on peut le dire comme ça, et il faudrait accentuer là-dessus. Mais par exemple, nous à la FAGE, donc on reçoit beaucoup de mails et de coups de téléphone aussi, et c'est une majorité d'étudiants internationaux qui nous contactent pour faire face à différentes situations.
À l'échelle de la FAGE, qu'est-ce qui manque peut-être encore aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin dans l'aide que vous apportez aux étudiants étrangers ?
Qu'est-ce qui manque ? Eh ben, je dirais, en fait, c'est toute la question des titres de séjour et c'est quelque chose qui dépend malheureusement pas de nous, mais que les services des préfectures soient un peu plus réactifs parfois, parce que c'est extrêmement compliqué pour le renouveler. En fait, les délais d'attente peuvent être très longs et du coup, les étudiants en pâtissent sur leurs études. Et ce qui tend à être amélioré aussi, c'est au sein des universités, on y travaille. Toute l'explication du fonctionnement du monde de l'enseignement supérieur en France. Parce qu'on n'entend pas la même chose d'une dissertation et d'un commentaire de texte, par exemple, en France ou dans un autre pays. Et c'est ça aussi qui fait que parfois, il y a une scolarité qui est plus difficile pour les étudiants internationaux.
Alors, c'est assez drôle à vivre sur place parce que j'ai vu effectivement Adrien et Lydia acquiescer très fortement à tout ce que tu viens de dire, Angèle. Adrien, déjà, est-ce que tu souhaites réagir à ce qu'elle vient de dire ?
Oui, bah, tout à fait, en fait, parce que bah, ils arrivent, ils sont propulsés dans des cours à la française, on va dire, et ils n'ont jamais fait de dissertation, de commentaires, tout ça, et ils ne comprennent pas. Enfin, j'ai encore parlé à une Italienne un jour qui m'a dit « Je comprends pas la dissertation, pourquoi ? Trois parties, truc, machin. » Et ouais, c'est difficile. Et en effet, il n'y a pas forcément d'accompagnement de la fac. Nous, on essaie de le faire via le parrainage, via les buddies, par exemple. On dit bah, « C'est un étudiant qui va expliquer, mais des fois, on n'explique pas aussi bien que l'expliquerait un prof ou un spécialiste. » Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel, ouais, faut travailler.
Et alors justement, un petit peu la même question finalement, est-ce que vous avez les mêmes soucis que la FAGE au niveau de ce que vous pourriez améliorer pour aider les étudiants étrangers ?
Il y a pas mal de choses auxquelles on est en train de réfléchir. Un gros problème que les étudiants ont, c'est aussi le problème du garant quand ils cherchent un logement, parce qu'en France, il faut un garant quand on veut un logement et souvent les étudiants étrangers en ont pas, ou alors le garant n'a pas les revenus suffisants. C'est pas un garant français, donc il y a des entreprises qui le proposent, il y a le CROUS qui a un système, mais c'est pas parfait, quoi, c'est compliqué. Donc il y a ce problème-là, il y a aussi le problème de transport, l'offre des transports elle est pas forcément adaptée aux étudiants étrangers qui viennent, qui restent pour un court séjour de 6 mois par exemple. Donc il y a plein de problématiques comme ça sur lesquelles on peut travailler, mais malheureusement nous on est trop petits pour faire bouger les choses, donc Là, on essaie de faire à la rentrée un partenariat avec une entreprise un peu solidaire qui va proposer par exemple des ateliers où les étudiants pourront venir en groupe pour ouvrir des comptes, pour ouvrir des comptes bancaires en France, souscrire à un pass Navigo. Donc on va essayer d'organiser des petits groupes comme ça.
D'accord. Même question pour toi, Lydia, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que tu es un petit peu près d'accord puisque je t'ai vu acquiescer? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Oui, quand j'étais en Algérie, on avait une façon particulière de faire des commentaires de textes et des dissertations. Et j'étais assez bonne en Algérie.
Qu'est-ce qui a changé?
Bah ici, je me retrouve avec des 7, des 8, ah oui. Des 9.
Et les gens prennent les professeurs du coup prennent le temps de t'expliquer ou c'est un petit peu compliqué toujours?
Non, en fait, ils nous demandent de nous débrouiller en fait, de chercher comment faire une dissertation. Même s'ils nous expliquent, ils nous l'expliquent très très brièvement. Et franchement, ça nous motive pas vraiment à chercher ou enfin.
J'ai envie de te confier le mot de la fin, Lydia. Quel message tu aimerais adresser à l'étudiant ou l'étudiante d'origine étrangère qui galère et qui peut-être nous écoute en ce moment?
Alors, j'ai juste un conseil à donner, c'est de ne pas se laisser abattre. Parce que c'est ce que j'ai fait malheureusement à un moment donné. Et je me retrouve avec des grandes séquelles. J'étais très très forte moralement avant de venir en France. J'étais, on va dire, impénétrable, entre guillemets. Mais depuis que j'ai vécu ces 2 ans de difficultés, je me retrouve très...
Vulnérable ?
Vulnérable, oui. Rien peut me faire pleurer.
Donc ne pas se laisser abattre peut-être, c'est ça ?
C'est ça. Donc de ne pas succomber à cette dépression et de tout faire pour rester fort. Parce que c'est juste une petite période, j'espère, qui va bientôt se finir et c'est à nous de bâtir notre avenir. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous.
Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses, votre partage pendant ces 30 minutes d'En Sortir. Et voilà, c'est tout pour ce 8e épisode d'En Sortir produit par Grande Contrôle. Dans une semaine, on se retrouve pour le 9e épisode qui sera porté sur une autre minorité étudiante souffrant de précarité, à savoir les personnes en situation de handicap. En attendant, à toi, cher auditeur, auditrice qui nous a suivis pendant cette demi-heure, respire un grand coup parce que d'où que tu viennes, nous ne ménagerons pas nos efforts pour que tu puisses t'en sortir.